Oui, moi aussi, deux mots avant de commencer. J'ai fait circuler un livre de photos qu'on vient de publier, qui est excellent, donc vous le regardez, mais vous ne le bloquez pas, vous faites circuler. Deuxième mot avant de commencer, je vois que vous êtes beaucoup à prendre des notes sur ordinateur. Alors, ce que j'ai lu toute une série d'études, c'est le fait que quand on prend des notes sur ordinateur, on ne se rappelle pas de ce qu'on a pris comme note. C'est très pratique pour l'enregistrement, mais pas pour la mémorisation. Pourquoi ? Parce qu'on tape trop vite. Donc, on évite de faire le travail de synthèse avant d'écrire. Alors, chacun fait comme il veut. Ce que je voudrais juste, c'est, une fois que vous savez qu'il y a des études qui montrent ça, expérimentez dans votre tête, réfléchissez à ce que vous faites. Est-ce que effectivement, à la fin d'une séance, vous êtes souvenu de ce que vous avez tapé, ou est-ce que c'est devenu une espèce de système mécanique? Voilà. On a la même chose qui est la différence entre la traduction et l'interprétariat. Quand on interprète quelqu'un, c'est-à-dire qu'on parle à peu près en même temps que lui avec un très léger décalage, ça rentre par une oreille, on concentre sa voix et on parle, et en fait, à la fin, on ne se rappelle pas ce qui a été dit. C'est un peu le même processus qui est en jeu. Alors voilà, comme vous êtes en humanité numérique, autant en profiter pour expérimenter sur votre propre expérience à vous de la saisie de notes, de l'influence ou pas de la machine sur le contenu. Voilà. Ah ben c'est tout ce que j'ai à dire avant de commencer, pas mal. Si ce n'est que je vois que vous êtes presque tous là, j'ai donc pas réussi à vous décourager la dernière fois, je vais essayer de le faire aujourd'hui, en vous parlant donc d'abord de commerce pour commencer. Vous avez vu que nous étions la semaine dernière le 11-11. Le 11-11 en Chine, c'est la journée des célibataires. 1-1-1-1. Voilà. Donc, et ce jour-là est devenu, vous savez, comme toutes les journées un peu spécial, c'est devenu le jour de la vente en ligne, organisé principalement par Alibaba, qui est la grande plateforme commerciale chinoise, et donc avec des fêtes, avec des activités, et avec chaque année l'objectif de battre le record des ventes de l'année précédente. Et chaque année, ils y arrivent. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que la majeure partie des achats qui sont faits en ligne pendant cette opération sont faits via des téléphones mobiles. Là aussi, il y a cette semaine, dans le New York Times, une série d'articles sur l'émergence de la Chine, dont un qui explique très très bien pourquoi la Chine aujourd'hui a arrêté d'être dans l'imitation. Vous savez, quand un pays émerge, il commence par imiter les travaux faits par les autres, et puis après, il se les approprie et il développe ses propres capacités. Aujourd'hui, la Chine a arrêté d'imiter l'Internet américain pour devenir en fait un modèle dont les grandes entreprises de l'Internet américain vont voir comment ça marche. Principaux éléments de ce modèle-là, tout est centré sur le mobile, content first, et les applications cherchent à être multi-applications, c'est-à-dire autour de la même messagerie Tencent, on peut faire des achats, payer en ligne, on peut faire de la communication, bien évidemment, de la consultation, notamment de la consultation de magasins en ligne, etc., etc. Donc on voit là que c'est important de voir ça, c'est place centrale du mobile, fusion des activités autour de l'activité commerciale, multiplication du paiement direct avec les smartphones au point de remplacer la monnaie, y compris dans les petites échoppes, etc. Bon, on me dirait, ils ne sont pas les seuls. Cette semaine, c'est le Black Friday. Donc là aussi, l'idée que grâce à ou à cause de, je ne sais pas, les plateformes en ligne de commerce électronique, on retrouve des moments où on peut faire des super promotions. C'est-à-dire où on va baisser les prix pour vendre en plus grande quantité et livrer au plus vite. Là aussi, on est donc dans une espèce de système de l'urgence. Hein, le Black Friday, c'est profitez-en maintenant parce que ça ne va pas durer, c'est pas long, c'est quelques jours. Et voilà. Et ainsi, un système aussi où on voit les plateformes commerciales, ici c'est la plateforme Amazon, centrer l'ensemble de leur activité sur la question du prix. C'est-à-dire que le critère numéro un du service rendu à l'usager est devenu le prix. Alors, je vais y revenir tout à l'heure. Alors, tout ça pour dire que quand même, l'Internet qui est né dans les secteurs scientifiques qui servaient à échanger des idées, à échanger des informations. Aujourd'hui, principalement, il est arc-bouté sur le système du commerce électronique, sur le système des échanges. Alors, c'est assez impressionnant, hein. Quand je donnais mes premiers cours de culture numérique, personne dans la salle n'avait jamais utilisé sa carte bancaire pour payer quelque chose sur Internet. Et même, on me disait, mais jamais je ne le ferai. Bon, ici, j'imagine, vous avez tous déjà payé un billet, un train, un spectacle, un livre, n'importe quoi, sur Internet, directement avec votre carte bancaire sur Internet. Donc, on voit bien qu'on a là une évolution, une incrustation du commerce à l'intérieur de ces machines que nous avons toujours dans la poche. Là aussi, autre élément essentiel, c'est-à-dire renforcer la facilité d'achat. Sur notre ami d'Amazon, par exemple, quand on approche la souris assez près du bouton « Acheter », automatiquement, elle se déplace vers le bouton « Acheter ». Donc, il y a une espèce d'attraction comme ça pour bien montrer que le phénomène principal, c'est celui-là. Mais ce qui fait la force du commerce électronique, ce n'est pas uniquement d'acheter en un clic, c'est tous les systèmes de recommandation et les systèmes d'affiliation. C'est-à-dire que, quelque part, on devient membre d'une entreprise commerciale. On aide cette entreprise commerciale à nous vendre les choses qui nous intéressent. De manière, on est affilié, c'est par exemple Amazon Prime, ou alors on regarde les recommandations qui nous sont faites. Vous savez que Amazon est né dans le monde du livre. À l'origine, c'était uniquement la plus grande librairie de livres disponibles. Et là, pour recommander les livres, il y avait des éditeurs, c'est-à-dire des individus qui lisaient les livres, qui les choisissaient et qui les faisaient apparaître sur la première page de Amazon. Ça a duré jusque vers 2006. Puis, on a mis en place, en fait, des algorithmes qui font que ma première page n'est pas votre première page. Nous avons chacun la nôtre en fonction de ce que nous avons acheté auparavant, de ce que les gens qui ont acheté les livres que nous avons achetés auparavant ont aussi aimé, ont aussi acheté, que nous n'avons pas encore acheté, quel drame. Donc il va bien falloir nous le présenter. Et en fonction aussi, je vous l'ai expliqué la dernière fois à propos de Netflix, mais de quel est l'intérêt spécifique de Amazon à vendre tel ou tel produit, donc y compris s'il y a des promotions, l'intérêt de vendre en bulk, en masse, etc. Donc ça veut dire que le commerce électronique, c'est avant tout un système d'analyse de nos pratiques antérieures et des pratiques de nos semblables, des gens qui nous ressemblent le plus. Autre aspect du commerce électronique, c'est les avis d'usagers. Et là, on s'aperçoit que les gens ont confiance dans les avis d'usagers. Si vous voulez acheter quelque chose, un ordinateur, l'autre jour j'ai acheté du tonnerre, de l'encre, ben, j'ai été regardé ce que disaient les gens, parce que une même boîte de tonnerre qui s'adapte dans la même machine peut avoir des qualités complètement différentes. Et là, ça devient intéressant d'avoir des avis d'usagers. Bon, on a des plateformes qui sont entièrement consacrées à ça, notamment pour les restaurants ou pour les logements. Donc cette importance de l'avis d'usagers est née en même temps que le commerce électronique. Petit problème, c'est qu'on s'aperçoit qu'environ 40%, c'est une enquête qui a été faite par la Direction générale de la concurrence et des fraudes, 40% des avis sont des fakes, c'est-à-dire ils ont été fabriqués par ou demandés par le vendeur qu'on fabrique un bon avis. Alors il y en a qui se sont fait pincer très fort parce qu'ils étaient nigauds, c'est-à-dire ils faisaient eux-mêmes des avis négatifs sur tous leurs voisins, et des bons pour eux-mêmes. Bon, ça, voilà, les plateformes s'en aperçoivent. Mais c'est très difficile de détecter des faux avis. Et vous voyez, quand le titre s'appelle « De l'influence à la Fox », on voit bien là que dès cette notion de commerce électronique, il faut être celui qui va vendre et qui donc va écraser les autres, l'importance de fausses nouvelles, de fausses informations. Alors aujourd'hui, on essaye, il y a tout un travail au CNRS qui cherche à repérer un faux avis, c'est-à-dire quelqu'un qui se présente comme un usager, mais qui en réalité est payé par une officine pour écrire n'importe quelle bêtise sur les livres en disant « c'est bien, puisque on va dire c'est bien de celui qui nous paye, c'est bien connu, on ne mord pas la main qui vous nourrit ». Donc voilà, donc on est dans une situation qui, vous voyez, est très semblable à ce que les journaux décrivent par rapport aux fausses nouvelles, et on est là dans le domaine strictement commercial. Alors comment on peut repérer étude de contexte, étude de style? Est-ce que le style fait personnel ou robotique? On y reviendra. Est-ce que les phrases sont des phrases stéréotypées qui ont déjà été utilisées ailleurs? Principe du robot qui concatène des phrases très abstraites. Est-ce que le texte rentre dans le sujet ou bien reste avec des circonvolutions toujours les mêmes qui peuvent s'appliquer à tout et n'importe quoi? Voilà, donc on est aussi dans un autre domaine, c'est qu'on passe du commerce à la pub, c'est-à-dire, comme on est dans le commerce électronique, on n'a plus de relation directe avec l'objet qu'on va acheter. Alors ce que je veux dire par là, ce qui me semble important, c'est qu'on comprenne bien que Internet reste attaché au monde réel. Je vous ai expliqué la dernière fois que pour moi, c'était un écosystème qui était en interaction permanente avec notre écosystème terrestre. Donc voilà. Ça sert à vendre des objets. Ça sert à développer la société de consommation. Ça sert à faire des relations direct entre les gens, y compris les applications de rencontres, etc. Donc, ne pas penser que Internet sert uniquement à distribuer de l'information, qu'elle soit juste ou qu'elle soit fausse, mais bien un outil d'interaction entre humains dans le monde réel, avec donc les anciennes pratiques qui sont le commerce, le travail et les relations amicales et sexuelles. Ça existe depuis l'aube de l'humanité, mais c'est aujourd'hui en nouvelle interaction. Pour avoir cette dynamique dans le monde réel, il faut être capable de la représenter dans le monde intangible, des idées, des représentations, des schémas, de ce qui se passe à l'intérieur. Et ça va être le rôle de la publicité. Ça a toujours été le rôle de la publicité, s'adresser à vous. Regardez, elle vous regarde droit dans les yeux. La publicité de Coca-Cola du début du siècle. Elle vous regarde droit dans les yeux, c'est pour vous attirer vers son produit. Donc aujourd'hui, ce qu'ont réussi à faire les gens de la publicité sur Internet, c'est de passer au-delà de ce qu'on appelle les catégories socio-démographiques. Voilà. Donc on ne vise plus la ménagère de moins de 50 ans, on ne vise plus les parents de jeunes enfants qui achètent la revue Parents, on ne vise plus les acheteurs d'automobiles qui achètent la revue L'Automobile et ainsi de suite. On ne juge plus donc les grandes catégories socio-professionnelles, mais carrément l'individu qui a déjà fait des achats, qui a déjà consulté des sites, qui s'est déjà renseigné sur des produits, qui a échangé avec des amis autour d'un produit, avec des mots-clés qui ont pu être repérés par un système automatique dans ses mails. D'où l'enjeu d'ailleurs de ne pas avoir ses mails au même endroit que quelqu'un qui fait de la vente ou de la publicité. Si vous voyez de qui je veux parler, c'est tant mieux. Voilà. Donc, en fait, cette logique de la publicité ciblée, hein, il est beau le terme de cible. Vous êtes du mauvais côté de la cible quand même. Hein. Cette publicité ciblée qui essaye d'agir sur nos comportements, qui essaye de nous influencer, elle va transformer en réalité l'Internet. Elle a transformé l'Internet d'un système où on poussait de l'information, donc qui relevait du modèle traditionnel des médias, du livre, des magazines, des journaux, où l'information était là et on l'a poussée vers des lecteurs, en une information en fait qui sert à capter des traces du lecteur. Tout site Internet devient un aspirateur de données. Et on ne valorise en réalité les sites que s'ils sont capables de prouver qu'ils vont aspirer des données sur les usagers, y compris les sites les plus inutiles, idiots, qui vont durer que 15 jours pour faire du buzz, etc. L'important, c'est est-ce qu'ils sont des bons aspirateurs de données personnelles. Donc cette métaphore du pétrole gris, hein, le pétrole gris étant les données, principalement les données personnelles. Voilà. Et donc l'information, en fait, devient le support à l'aspiration de données. Donc ça n'est plus, contrairement y compris à ce qu'on peut penser nous-mêmes quand on est un usager, L'information n'est plus là uniquement pour nous informer, ce qui était le cas, par exemple, de la littérature scientifique qui circulait sur les premiers temps de l'Internet, ou ce qui peut être le cas de la littérature philosophique, ou le cas des news, des informations, quand elles sont distribuées sur Internet. Là, aujourd'hui, on choisit l'information pour, en fait, capter vos données personnelles et renvoyer de la publicité ciblée. Il y a un jeu de va-et-vient entre données personnelles, publicité ciblée, comme ça. Voilà. Alors, ça pose un problème de concurrence. Ceux qui sont capables de capter le maximum de données, donc qui couvrent le maximum de secteurs, deviennent des incontournables. J'y reviendrai un peu tout à l'heure, mais vous voyez bien de ce qu'on appelle les plateformes ou les géants de l'Internet. Ils deviennent incontournables parce que les premiers installés qui captent le plus grand nombre de données sont forcément ceux qui vont être capables d'en capter encore plus. Voilà. On a un phénomène comme ça, qui est le premier arrivé, on appelle ça l'effet de réseau, le premier arrivé sur un secteur va grossir quand ce secteur va grossir plus que tous les autres acteurs de ce secteur. Bon, ça met en danger la démocratie. Pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait du quant à soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le citoyen ou la citoyenne soit en mesure de penser, elle, voilà, en fait, moi, je crois ça. Raison, il a tort. Bon, ce n'est pas le problème. Le problème de la démocratie, c'est qu'il arrive à penser, ou elle arrive à penser ça. Voilà. Et après, elle va décider de comment sa pensée profonde va se développer dans la société, choix de voter, choix de participer à des associations, choix de etc., etc. Voilà, donc c'est... Alors en plus, c'est au risque de la vérification des faits, donc ces fameuses fake news dont on va parler tout à l'heure. Donc voilà, première partie, bien montrer que c'est quand même le commerce aujourd'hui qui drive l'Internet. Voilà. Alors avec les grands acteurs... et le plus grand d'entre eux, aujourd'hui Amazon, donc, qui est né en 1995 d'un projet de vendre des livres et qui aujourd'hui, par exemple avec un accord avec Whole Foods aux États-Unis, vend à peu près tout et n'importe quoi, tout ce qui peut se vendre est sur Amazon, y compris les produits frais. Alors, que va développer Amazon? Quels vont être les fondements de la philosophie? Parce que toutes ces entreprises ont une philosophie derrière, qui les guide. La première chose, c'est client first. Le client est premier, le client est roi. Et comme le client est difficile à mettre en algorithme, c'est le prix. Le prix devient le critère du client. Les clients vont acheter si c'est moins cher. Donc, les pressions sur les producteurs. Et vous savez, en chaîne, si on fait pression sur les producteurs, eux-mêmes vont faire pression sur ceux qui fabriquent, les travailleurs de leur entreprise, voire vont licencier, voire vont faire de la sous-traitance, qui va faire encore plus pression, etc., etc. Donc le fait de payer moins cher au début ou à la fin de la chaîne a des effets sur toute la chaîne de production des produits. Deuxième élément de la philosophie de Amazon, l'attitude vis-à-vis de ses propres travailleurs. C'est-à-dire, peu importe leurs conditions de travail, il n'y a que le client qui est important pour l'entreprise. Donc, en fait, si on regarde les entreprises du 19e et surtout du début du 20e siècle, jusque dans les années 80-90, les gens, quelque part, les travailleurs d'une entreprise faisaient partie de l'entreprise. D'ailleurs, on le voyait quand il y avait des licenciements massifs, les travailleurs des entreprises prenaient le nom de leur entreprise. On les appelait les LU, les LIP, les Dunlop, les etc., etc. Ils prenaient le nom de leur entreprise. C'est bien qu'il y avait quelque part une espèce de quelque chose. Il y avait certes des dominants, des dominés, certes des patrons et des ouvriers, certes de la lutte de classe, mais elle se situait au sein de quelque chose qui était une entité collective. Sur Amazon, le leader n'étant plus à l'intérieur de l'entreprise, mais à l'extérieur, c'est le client. Ça se traduit forcément sur les conditions de travail qui sont de plus en plus dégradées, avec des entrepôts qui sont mal chauffés, avec... aujourd'hui, Amazon vient d'inventer un espèce d'outil qui se fixe au poignet et qui serait capable de guider la main du salarié vers l'objet, le livre ou les autres objets qu'il va devoir prendre pour accélérer par un système, un exosquelette quelque part, accélérer la productivité du salarié. Cette productivité est demandée aussi aux fournisseurs. Amazon n'est plus uniquement un vendeur. C'est pas un hypermarché qui a ses stocks et qui les vend. C'est aussi une marketplace, c'est-à-dire un endroit où d'autres producteurs vont utiliser le système de mise en relation électronique, le système de publicité électronique, j'ai parlé tout à l'heure, pour contacter directement des clients. Hein, donc faire de la revente de leurs produits. Voilà. Or, l'existence même d'un tel marketplace fait pression à nouveau sur ces producteurs et fait une concurrence sur l'ensemble de l'organisation d'un territoire, l'organisation d'une ville. Alors, vous savez aussi qu'Amazon s'est étendu à partir de ses compétences qu'il a développées en informatique pour faire un site commercial. Il a créé des outils numériques qu'il va sous-traiter à d'autres, ce qu'on appelle les Amazon Web Services ou le cloud de Amazon. Et puis, des nouveaux appareils, comme cet assistant vocal qui s'appelle Alexa, qu'on peut installer dans son salon. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse bien à ce que veulent dire ces nouveaux appareils. Notamment autour d'un brevet qui a été déposé l'année dernière, en fin d'année, et qui a été validé au mois d'octobre de cette année. Un brevet qui dit « Alexa, qui vous écoute tout le temps, puisque vous pouvez lui faire des commandes ensuite ». Vous pouvez lui demander d'allumer ou d'éteindre la lumière parce que c'est quand même trop fatigant de le faire soi-même, hein, il faut reconnaître. Donc, Alexa vous écoute tout le temps et est capable, à partir du ton de la voix, à partir des expressions que vous utilisez, de savoir si vous êtes en forme ou pas. Forme morale ou pas parce que vous toussez. Et de vous procurer des conseils. Excusez-moi, la publicité. Enfin, je ne sais pas, la publicité, des conseils, quelque chose qui va vous dire, va aller acheter tel produit, notamment aux États-Unis où les ventes de médicaments sont libres, large partie d'entre eux en tout cas. Donc transformer quelqu'un qui vient chez vous pour rendre un service en un mouchard permanent, mais qui surtout va être capable d'interpréter ce qui se passe chez vous et qui va vous donner des ordres, des influences, vous transformer vos émotions. Alors, traditionnellement, le capitalisme a besoin de lois antitrust, c'est-à-dire il a besoin de développer en permanence la concurrence. Ça fait partie du développement même du capitalisme. Ce problème, c'est que les lois antitrust traditionnelles, celles qui viennent de la lutte contre les pétroliers, qui pouvaient, dans les années 20 et 30, s'unifier ensemble pour fixer les prix et donc faire monter, en réalité, avoir ce qu'on appelle un surcoût de monopole qui allait abîmer l'ensemble, le reste de l'économie. Donc les lois traditionnelles antitrust portent sur le service au client, la concurrence. Dans le cas d'Amazon, ça ne peut pas marcher. Amazon est un vrai cas d'école. Faire baisser les prix, c'est son objectif, c'est l'objectif numéro un. Donc, aujourd'hui, en faisant baisser les prix, il ne contredit jamais la loi antitrust, les lois antitrust actuelles. Par contre, ça a des effets sur l'ensemble de la société, la pratique de Amazon. Ça fait fermer les commerces en centre-ville, ça fait baisser la production dans toute une série d'entreprises pour les délocaliser là où les salaires sont moins chers, et ainsi de suite. Donc, au dernier élément, la logique de l'urgence. Ah, vous ne pouvez pas acheter un livre sur Amazon sans qu'on vous propose de le livrer dans l'heure qui suit, ou presque. Attendez, si on veut dans l'heure, on va à la librairie. On est à la librairie, qui en général ne l'a pas, parce que sinon, on n'a pas besoin d'aller sur Amazon. Donc voilà, est-ce que c'est utile d'avoir le livre dans le jour qui suit, ou tout ça? Est-ce que cette notion d'une urgence est le critère qui va favoriser l'existence d'une société? Quand même une question qui mérite, à mon sens, d'être posée. Donc aujourd'hui, Amazon est un cas d'école pour réfléchir à ce que peuvent être des lois antitrust dans la situation actuelle. À l'opposé d'Amazon, donc géant mondialisé, c'est Le Bon Coin, qui est certes un autre géant, mais qui favorise l'activité locale. L'activité locale d'objets de seconde main, enfin en principe, enfin jusqu'à présent. Donc ça, là aussi, c'est un bon critère pour la planète, puisqu'on va éviter de jeter, on va récupérer, réutiliser, etc. Donc voilà, après, ça garde la logique dont j'ai parlé tout à l'heure du commerce électronique, qui est l'affiliation. Le terme des gens de Schisbed, c'est les bons coinistes français. Les bons coinistes, quoi. Vous en faites partie. Vous n'êtes pas seulement un acheteur sur un service, mais vous êtes membre d'une communauté. Alors, ces plateformes introduisent une logique, une nouvelle logique, à la fois d'ultra-concurrence sur toutes les entreprises, comme je l'ai montré, et puis un néo-management, hein, un management interne qui est d'une rare violence. Hein, et, Amazon est souvent décrié dans les articles de presse, mais ni tout, parce que les ouvriers, rendez compte, des ouvriers, des employés qui font les paquets, sont obligés de signer un non-disclosure agreement, un NDA, c'est-à-dire je ne parlerai pas de ce que je vis à l'intérieur de l'entreprise en dehors de l'entreprise. Sinon, l'entreprise peut me faire un procès, me condamner et gagnera puisque j'ai signé mon non-disclosure agreement. Ce qui donc signifie l'immense difficulté à créer des syndicats. C'est un néo-management qui fait que de facto, le syndicat est impossible. Alors, il y a eu des mouvements dans Amazon, en Allemagne, récemment à Seattle, mais il n'y a pas vraiment de structure organisée. C'est, je dirais, le management à la chinoise. Voilà. Alors, à côté commerce électronique, publicité, il y a la question du public relation. Le public relation, c'est la capacité à utiliser les méthodes de la publicité, mais non pas pour vendre des produits, pour promouvoir des produits, mais pour vendre des idées ou pour modifier les normes sociales, les comportements sociaux. Alors, donc les public relations, c'est aussi ce qui va servir à la publicité politique, à la propagande. Hein. Bon, bien évidemment, la publicité pour les produits elle-même n'est pas exempte de la capacité à modifier les comportements des gens, à modifier les normes sociales, la manière dont ils sont, existent, se reconnaissent les uns les autres. Les publicités de parfums sont typiquement, voilà, ici on a le stéréotype majeur des relations hommes-femmes qui est repris ici dans la publicité de parfums. D'accord ? Mais la logique des public relations, c'est en fait de n'avoir aucun état d'âme vis-à-vis de l'impact de ce qu'on va raconter, de la propagande qu'on va déverser sur l'ensemble de la société. Alors, un des inventeurs peut-être, hein, le père des public relations, c'est Edward Bernays. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu, il y a deux jours, il y avait un film sur lui sur Arte, qui doit être toujours à l'heure actuelle disponible sur le... Comment on appelle ça ? En replay. Petite vidéo pour vous compenser ça et puis vous reposer un peu. Consent through the use of manipulation, propaganda and control. And we should do it for the benefit of the public.
A very controversial guy, but everybody agreed he had played a role that really was very, very important. He was the man who told him exactly how to understand human psychology and how to use it. Turn over in his grave if he saw all these things.
It drove the country into a kind of hysteria. The propaganda efforts of the Committee on Public Information, a very Orwellian name, did succeed in driving a pacifist population into raving anti-German fanatics, you know.
I decided that if you could use propaganda for war, you could certainly use it for peace. As a result, the sale of bacon went up. So I said to Mr. Hill, why don't you change the color of the package? Said to them, gentlemen, green is going to be the color of fashion. Green became a fashionable color.
Play a role on that. He ran the public relations for the propaganda effort to support the overthrow of the democratic government of Guatemala, which led to horrifying atrocities which the country is still suffering from.
When he died, the New York Times and every other major newspaper in America, in his obit, declared him the father of PR, and he would have loved that because that was a title that he tried to win for 103 years.
Bon, d'abord, c'est bien d'avoir les vidéos sous-titrées. C'est un personnage assez impressionnant quand même. On voit qu'il va utiliser la psychologie. Psychologie, c'est une science faite pour aider les humains. Dans son contraire, qui va devenir une science pour influencer les humains, ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie comportementale ou la publicité comportementale. Donc on a là déjà quelque chose d'assez, bon, comme dit le film, Freud se serait retourné dans sa tombe, c'est sûr. Donc on est là dans un premier basculement qui consiste à utiliser des choses faites pour les individus en les transformant en des choses faites contre les individus au service du financeur, de celui qui paye. Alors, on l'a vu agir sur plein de domaines. Un de ses principaux succès, c'est cette histoire des torches de la liberté. Le jour d'une grande fête de Pâques à New York, il avait convoqué toute une série de personnalités, de mannequins, de choses comme ça, qui, au moment du signal, ont sorti de sous leur jartel un paquet de cigarettes et se sont mis à l'allumer dans la rue. Il avait convoqué au même moment les médias, qui ont filmé, rendu compte de l'événement, et appelé cela les torches de la liberté. L'objectif était quoi ? Aider Lucky Strike à doubler sa clientèle de base, puisque avant il n'y avait que les hommes principalement qui fumaient dans les rues. Donc on double la clientèle de base, au mépris complet de tous les effets secondaires du tabac, qui sont niés, ignorés, etc. Il n'y a qu'un seul objectif, c'est celui de satisfaire le patron qui le paye. Et c'est surtout d'avoir vicier les choses, transformer en fait l'instrument d'une dépendance qui va s'installer à un produit en une liberté, une libération pour la moitié de l'humanité. Et ce genre de twist-là est ce qui est le sel même de l'activité des public relations. C'est ce qu'on retrouve dans le fameux scandale Cambridge Analytica, entreprise moderne de public relations qui se destine à l'aide aux politiques, un peu comme dans l'histoire du coup d'État au Guatemala. Voilà. Alors, il n'est pas le seul à penser comme ça. Là, j'aime beaucoup ces citations d'un des fondateurs d'un des Big Five, d'un des principales entreprises de publicité du monde, William Bernbach, qui nous dit que ne mesurez pas l'opinion, faites-la. Et que personne ne compte le nombre de pubs que vous faites, on se souvient que de l'empreinte que vous laissez. Ou tous ceux qui ont utilisé les médias sont des façonneurs de la société. Donc c'est cette espèce d'hubris des gens du monde publicitaire qui pensent, qui sont certains, que c'est eux qui vont transformer le monde en manipulant les émotions, les sentiments, en influençant les individus au plus près d'eux-mêmes avec les méthodes modernes de captation de traces et de données. Bon, heureusement, c'est pas sûr que ça marche. C'est-à-dire, heureusement que leur volonté de puissance, leur hubris, se heurte à des formes de résistance qu'ont les individus, parce qu'ils sentent bien qu'ils sont manipulés, et que peuvent avoir les groupes qui font circuler de l'information auprès des individus pour leur dire « Mais là, attention, vous êtes manipulés. Bon. » Ça ne marche pas, mais ça marche quand même. C'est-à-dire, globalement, ils veulent comme ça, ok, ça, ils ne l'ont pas, mais ils ont quand même comme ça. Et on voit bien qu'on est tous soumis, il n'y a qu'à regarder comment nous sommes habillés, les objets que nous achetons, ce que nous mangeons, etc. Nous sommes tous plus ou moins en relation avec ces systèmes d'influence. Alors, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si, en fait, les entreprises assuraient leurs responsabilités sociales et environnementales. C'est-à-dire si on pouvait leur confier la réalisation. Elles font des produits, elles les vendent. Moi, je suis éditeur, je fais des livres, je les vends. Enfin, je trouve ça assez normal qu'une entreprise fait un produit et le vend. Le problème, c'est que ces entreprises passent leur temps à essayer de twister la loi, de twister la réglementation, de passer au-delà de ce qui fait la décision collective, c'est-à-dire la base même de la démocratie. Alors, je vais détailler un peu un exemple, il y en aurait 500 000, je crois par exemple, très récemment on s'est aperçu que le système REACH, R-E-A-C-H, de l'Union européenne pour le contrôle des produits chimiques, qui est un système qui confiait aux entreprises qui fabriquent ou qui importent des produits chimiques le soin de réaliser les études toxicologiques et de les publier. On s'est aperçu que 40% des produits chimiques n'avaient aucune étude toxicologique qui était faite, alors que ces produits étaient en vente dans l'Union européenne. Donc, on pourrait prendre plein d'autres exemples comme ça. Je vais en détailler un peu parce qu'il a à voir avec les questions d'informatique. C'est celui de l'affaire, dites l'affaire Volkswagen. Volkswagen fabrique des moteurs diesel et prétend qu'ils ne polluent pas. Après tout, c'est de la publicité. C'est une information mensongère, mais on a bien vu qu'avec le public relations, ça peut passer. La société, de son côté, établit des normes. Elle dit pas plus de temps d'oxyde d'azote, pas plus de temps de particules fines, fixe des normes, à mon sens trop légères. Quand on voit le nombre de morts liées aux particules fines, par exemple, le chiffre normatif est certainement trop élevé. Mais après, on peut discuter de ce chiffre. Il y a une norme. On pourrait penser qu'un constructeur va s'adapter aux normes, que ça, c'est un espèce de terrain de jeu collectif, puisque tous les constructeurs doivent s'y adapter. Ouais. Qu'a fait Volkswagen ? Ben, ça a été découvert par déjà une association liée à l'Université de West Virginie qui a refait des études parce que ça lui paraissait bizarre que la pollution qui était enregistrée sur les voitures soit réellement aux normes. Alors ils ont fait une étude avec du matériel quand même assez complexe et ils se sont aperçus qu'il y avait une différence, ben, une petite différence, 40% de différence avec ce qui était proclamé par l'entreprise. C'est étrange, puisque l'entreprise a passé des tests, a passé ses examens, quoi. Et elle l'a réussi. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? La méthode, c'est que dans l'entreprise, il y avait un logiciel, dans l'entreprise, dans la voiture, il y avait un logiciel qui est capable de reconnaître est-ce qu'on est en situation réelle sur la route? Ou est-ce qu'on est en situation de test? Le test, ça doit être normalisé pour que toutes les voitures passent de la même manière le test. Le logiciel est capable de reconnaître ça. Et il le deviendra de plus en plus avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ou le deep learning. Il sera capable, même si on modifie les tests en permanence, de reconnaître si on est sur un usage test ou un usage route. Quand il est en usage test, hop, il baisse la capacité du moteur et donc il va baisser la pollution qui est ce qui est mesuré. Et dès qu'on est sur la route, libre cours à l'homme qui est derrière le champignon. Je dis l'homme, c'est pas pour rien. Voilà. Donc ça c'est la méthode. Le logiciel a été fourni par Bosch, l'entreprise Bosch, qui l'a fourni d'ailleurs aux concurrents de Volkswagen. Tout le monde était un peu sur le même, mais on s'en est aperçu qu'après. Et Bosch dit, mais moi, j'y suis pour rien du tout, moi. Vous comprenez, j'ai fabriqué un fusil, je l'ai vendu, mais c'est pas moi qui ai tiré dans le tas. Hein. Donc voilà, on voit bien aussi l'espèce de déresponsabilisation qu'il y a à l'intérieur du monde informatique. On te donne un challenge, toi, l'informaticien, tu vas résoudre le challenge, et après, tu te déresponsabilises sur l'usage qui va en être fait. Alors, cette activité détourner la loi, soyons clairs, toutes les entreprises essayent de le faire. Payer moins d'impôts, participer moins à la collectivité, retarder le plus tard possible l'application des règles environnementales, menacer de délocaliser s'il faut appliquer des règles sociales. Et donc l'État dit « Ah oui, mais pour votre entreprise, par exemple pour Euro Disney, vous n'avez pas les mêmes règles d'emploi puisque sinon vous allez partir de Euro Disney », et ainsi de suite. C'est une négociation permanente. Le problème, c'est quand on introduit du logiciel là-dedans, comment est-ce qu'on est capable d'évaluer ? Facebook, c'est 60 millions de lignes de code informatique. Mais une voiture, le logiciel embarqué sur les voitures, c'est 100 millions de lignes de code. C'est très, très complexe, on comprend bien. Je ne parle même pas des voitures autonomes, là. Je parle des voitures qui ont des systèmes de contrôle informatique pour la marche avant, la marche arrière, enfin, bon, éviter les chocs, etc. Et on comprend que c'est des systèmes qui sont très complexes. D'ailleurs, quand on s'en aperçoit d'autant plus quand il y a un accident et que des experts essayent de regarder ce qu'il y a dans le code. En général, ce n'est pas très bien écrit du point de vue informatique. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, quel équilibre existe-t-il entre le consommateur et le producteur ? 100 millions de lignes de code, c'est à peu près inauditable. On ne peut pas auditer un tel logiciel, surtout s'il n'est pas écrit selon les normes qu'on appelle le développement objet, etc., avec des morceaux qu'on puisse auditer. Donc, on se retrouve dans une situation de dépendance pour le consommateur, mais aussi pour les organismes de régulation des services publics. Voilà. Alors, une des méthodes qui est promue depuis le début des années 80 par les gens dits du logiciel libre, c'est qu'il faut ouvrir le code. Il faut qu'on puisse regarder comment un logiciel a été programmé. Alors, pourquoi Richard Stallman, fondateur, je vous en ai parlé la dernière fois, a développé cette idée-là? Il dit, mais toutes nos libertés sont en train d'être inscrites dans des logiciels. Et donc, si on n'a pas les moyens d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur du logiciel, en réalité, ce sont nos libertés générales, liberté de penser, liberté d'agir, liberté de se déplacer, liberté d'acheter ce qu'on veut, l'ensemble des libertés démocratiques qui sont mises en danger par la propriétarisation du logiciel. Et donc, on pourrait dire, bah oui, dans une voiture, si le code était libre, ça éviterait le code spaghetti et ça permettrait de mieux contrôler l'usage. Alors, il y a eu une volonté aux États-Unis de faire une exception au DMCA qui permettait de justement rendre lisible, pouvoir faire du reverse engineering sur le code des voitures, sur le code de ce qui était lié quand même à des outils à la fois puissants et qui ont besoin de sécurité. Qui s'y est opposé ? Comme c'est bizarre, comme c'est étrange. Et quelle coïncidence, Volkswagen ! Volkswagen s'est opposé à cette idée-là. Et ça a fini par être accepté par l'EPA, c'est-à-dire l'Environmental Protection Agency, hein, dont on a ici un petit texte hein, donc venant de l'EPA, qui dit qu'il faut continuer, si on fait une exemption, un cas particulier pour ce qui est dans les voitures, hein, alors ça va favoriser les actions qui vont être contraires au Clean Air Act. C'est-à-dire, très exactement, contraire au Clean Air Act, c'est ce qu'a fait Volkswagen en gardant secret le logiciel qui a été utilisé. Cette lettre a été envoyée par l'EPA pour obtenir cette loi 2 mois avant qu'éclate le scandale Volkswagen. Voilà. Alors après, qu'on ouvre le code, c'est qui va le lire ? Encore une fois, là, ça ne sera pas vous et moi. Enfin, ça ne sera pas moi, ça c'est sûr. Mais quelqu'un pourra le faire, et c'est ça qui est important. C'est-à-dire, quand on offre quelque chose à tout le monde, quelqu'un pourra le faire. On me dirait, ce n'était pas ouvert. Ils ont fini par s'en rendre compte à l'Université de Virginie-Occidentale. Oui. Enfin, au prix de quel travail, quel temps, quel délai, quelle contrainte pour, en fait, une décision collective importante. Alors, ce qu'on appelle les « defeat services », les « devices », les objets faits pour nous tromper, les objets fabriqués pour nous tromper. On parlait dans la deuxième partie des « fake news », c'est-à-dire des informations faites pour nous tromper. Mais là, on a des objets, des systèmes, des services qui sont faits, organisés pour nous tromper. Ils se multiplient avec le monde informatique. On a eu ce qu'on a appelé le fameux « rootkit » de Sony. Vous étiez certainement trop jeune pour vous en souvenir, mais ça a été un truc important. C'était l'idée que quand on mettait un CD dans le lecteur CD d'un ordinateur, Sony téléchargeait quelque chose qui empêchait la copie de ce CD, mais qui allait s'inscrire directement dans le code de votre ordinateur. Ce qui est strictement impensable. Modifier le code de votre ordinateur, ce n'est plus votre objet. Enfin, voilà. Donc, ça a été un des premiers devices de ce type. Après, toutes les automobiles ont souvent été condamnées pas pour leur méthode. Hein. Les machines à voter. Attends. C'est hacké régulièrement par les chercheurs qui montrent qu'on peut modifier le cours d'une élection. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, les élections et partout dans le monde entier se joue sur quelques milliers de voix. Là, vous êtes au courant aux États-Unis du recomptage des voix, etc. Avoir des machines à voter numériques qui sont très peu fiables met en danger, en réalité, la démocratie. J'ajouterai un autre élément. La démocratie a besoin de cérémonie. Toute activité humaine a besoin de cérémonie à un moment donné. Et le fait de se déplacer pour aller voter tous ensemble le même jour, avoir une décision qui est prise, c'est quelque part une cérémonie qui va valider encore plus le résultat de l'élection, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord avec le résultat de cette élection, ça va lui donner une force supplémentaire. D'où le danger de la logique du vote permanent qui s'appelle le sondage d'opinion. Hein ? Si on doit, y a beaucoup de gens qui défendent le vote électronique comme un sondage permanent, une espèce, il y a sans arrêt une question qui vous est posée. Dernier élément de contexte, avant d'aborder proprement la question des fake news, mais avant de faire la pause aussi, c'est la question de l'Internet des objets. Alors, là, il s'agit en fait de relier à l'Internet toute une série d'objets qui vont être des capteurs ou des actionneurs. C'est-à-dire des objets capables de capter de l'information sur leur environnement ou de modifier quelque chose, de prendre des décisions. Ça s'est rendu possible par toute une série d'évolutions informatiques. Ça reste encore problématique, notamment pour l'énergie utilisée par ces objets. Hein, donc, où va-t-elle être faite ? On pense principalement à des capteurs solaires, à des choses comme ça, pour leur donner capacité d'énergie. Et puis, on a ces objets qui peuvent reconfigurer des réseaux. Une des origines de cette idée-là est militaire. C'est ce qu'on appelle la poussière intelligente, Smart Dust, qui consiste en fait à balancer des milliers de tout petits capteurs, mais qui, une fois sur le sol, vont reconstituer un réseau de proche en proche. On appelle ça un mesh network. Et donc devenir des capteurs sur les champs de bataille pour savoir qui se déplace, à quel endroit, comment, etc. etc., etc. Donc la poussière intelligente a été à l'origine. Maintenant, la question ne se pose pas uniquement de savoir les champs de bataille, mais le champ de bataille commercial qui est le magasin est rempli de petits appareils qu'on appelle des beacons qui sont capables de capter votre téléphone mobile et de savoir que vous êtes là, surtout si vous avez téléchargé l'application du magasin, et donc d'influencer votre parcours, y compris physiquement, à l'intérieur du magasin. Donc l'Internet des objets, c'est principalement la capacité d'avoir des capteurs et des actionneurs qui se parlent entre eux, qui échangent de l'information, on dit machine to machine, c'est-à-dire sans avoir besoin d'une interface écran comme c'est le cas pour l'information. Alors, un des premiers outils de ça, c'est les RFID. C'est l'idée de donner à chaque objet un identifiant unique par objet. Pour l'instant, vous avez un code à barre qui convient toutes les boîtes de petits pois. Mais avec les RFID, vous pourrez avoir chaque boîte de petits pois qui a son identifiant spécifique. Et donc, va permettre de vous reconnaître. C'est un extrait du film de Steven Spielberg qui s'appelle « Minority Report ». Il date pas mal. Il date de 90 et quelques. Et on y voit des choses qui sont presque réelles maintenant, c'est-à-dire la reconnaissance de la personne. Là, en l'occurrence, c'est avec les yeux, c'est pour ceux qui ont vu le film. Et la proposition de publicité ciblée à l'intérieur même du magasin pour le héros qui est un fuyeur par ailleurs. Voilà. Allez, une petite vidéo pour finir.
L'Internet des objets, ou machine to machine, en fait, c'est quand deux objets se mettent à parler entre eux. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais en fait, c'est très utile. Prenez Paul, par exemple. Paul a d'énormes difficultés à se lever le matin. Eh bien, l'Internet des objets va lui faciliter la vie. Déjà, son agenda va pouvoir dire à son réveil de se régler automatiquement pour que Paul arrive à l'heure à son premier rendez-vous. Et c'est aussi son réveil qui va déclencher l'ouverture de ses volets, allumer sa télé, et dire à sa machine à café de se mettre en marche pour que tout soit prêt lorsqu'il sortira de sa douche. Une fois en route, c'est la voiture de Paul qui va commander au réverbère de s'allumer sur son passage, permettant à la ville des économies d'énergie. Si pendant la journée, Paul passe devant un supermarché, son frigidaire va envoyer un SMS à son smartphone pour le prévenir que son stock de concombres est épuisé. En rentrant, sa voiture va demander à sa chaîne Hi-Fi de passer son morceau préféré lorsqu'il franchira la porte de chez lui. Et le soir, c'est son four qui lui enverra un texto quand son gratin de concombre sera cuit. Avec l'Internet des objets, Paul peut donc s'endormir tranquille. Pourvu qu'il ne se soit pas trompé en notant l'heure de son premier rendez-vous.
C'est merveilleux le futur, non ? Ce qui est assez impressionnant, c'est que ce genre de discours marche. Quel est l'exemple qui montre qu'il marche ? J'en ai parlé tout à l'heure. Les assistants vocaux, que les gens installent chez eux. Ils installent l'assistant vocal d'Amazon, celui de Google, etc. Pour essayer de gérer leur maison à partir de la voix ou en faisant des commandes, une vie complètement assistée, ça a des conséquences importantes. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a une publicité de Uber, Uber Eats, c'est-à-dire la livrée des repas à domicile, qui dit en substance, vous pouvez aller faire 45 minutes de cardio training et 5 minutes pour avoir le repas chez vous qui arrive tout fait. C'est la belle vie, non ? Enfin, quoique faire le repas de temps en temps, ça nous met les pieds dans le réel, ça nous oblige à penser à ce qu'on fait, à partager quand on a une famille, etc. etc. Donc c'est tout un mode d'existence qui est promu par l'industrie des plateformes. Parce que les seuls, quelque part, qui gagnent quelque chose sont ceux qui gèrent les plateformes. Et cette capacité à promouvoir un mode d'existence qui n'est pas réfléchi, qui n'est pas discuté, c'est forcément pour le bien, cette vie assistée. Le collectif Orange vous le présente comme l'avenir. Donc c'est bien un projet global qui a derrière l'existence de l'Internet. Ça n'est pas un système de distribution de l'information. Ça l'était dans les années 90, ça l'est de moins en moins. C'est le support d'un projet global d'organisation de la société. Alors, ça joue sur l'organisation du monde réel. Dans les années 70, il y avait l'idée qu'en captant beaucoup de données sur une société, sur une ville, on pourrait optimiser l'usage de cette ville. C'est le projet CyberSyn qui a été développé notamment au Chili, enfin qui était une idée du Chili. Donc vous voyez, c'était pour le bien, hein, on fait toujours les choses pour le bien des autres. Mais quelque part, ça pose un problème. Et maintenant, on a ce néo-management dont je parlais tout à l'heure dans les entrepôts avec cette hyper-violence qui est montrée dans le livre de photos que je fais circuler sur la Silicon Valley. On a enfin un projet global avec des capteurs physiques. Pareil, ça peut être très utile si on a des capteurs de pollution qui vont nous permettre de savoir qu'il faut mieux s'enfermer chez soi que de sortir parce qu'il y a trop de particules fines. Ouais, sauf qu'en général, on est quand même obligé de sortir. Donc, c'est là que c'est problématique. Cette multiplication des capteurs pourrait nous gérer une ville intelligente, une smart city. La réalité, c'est qu'on nous prévoit des villes sous contrôle, où l'activité des gens serait contrôlée en permanence par les grandes plateformes. Et il y a aujourd'hui des villes futuristes comme ça, ou des quartiers qui sont construits. Par exemple, Google en a un à Quayside, à Toronto. Microsoft a décidé de construire une ville nouvelle entièrement pilotée par les données et donc par des capteurs de l'Internet des objets à Belmont, dans l'Arizona. Enfin, toutes les grandes entreprises de plateforme veulent modifier la ville de manière à pouvoir mettre la ville sous contrôle. Or, la ville, depuis qu'elle existe, s'est toujours développée de manière anarchique avec des gens qui construisaient, qui vivaient, qui marchaient, qui avaient des chemins différents, etc. etc. La ville, c'est quasiment l'opposition à l'idée même qu'on puisse faire du contrôle. Haussmann a bien essayé en traçant des allées. Perret a bien décidé au Havre en essayant d'avoir des immeubles. Mais ça n'a jamais marché parce que c'est pas la relation à l'urbanité n'est pas celle-là depuis l'histoire. Aujourd'hui, j'ai peur qu'avec les modèles qui soient mis en place et qui trouvent l'oreille des décideurs. Première règle qui a été décidée à Toronto, c'est de changer le code de l'urbanisme et de l'architecture pour permettre la construction de cette ville servicielle par Google. Oui, donc on a là un problème. Enfin, ce que met en place ce système, c'est l'idée d'une nouvelle rationalité qui serait basée sur une optimisation du temps. Le temps lui-même devrait s'accélérer, devrait être en permanence, aller plus vite. C'est ce qu'on appelle l'accélérationnisme. Et donc, ça nous donne une nouvelle soumission, en réalité, à l'ensemble de ces plateformes qui nous poussent à accélérer. Alors, vous voyez, la dernière fois, je vous ai parlé beaucoup de l'économie de l'attention, mais là, on était dans l'univers de l'information. Je pense que dans cette première partie du cours, j'ai essayé de vous montrer les relations avec le monde réel et ces capacités de contrôle et d'influence que peuvent avoir les plateformes, ces mêmes plateformes informatiques, avec le monde réel. Dans la deuxième partie, on va voir quelles sont les conséquences sur l'information elle-même, ce qu'on appelle l'infox ou les fausses nouvelles. Voilà.